Bonjour. Il se trouve que l'industrie nucléaire est une industrie tout à fait neuve. Elle a été montée dans les années 70 à 80 et elle a un énorme souci, c'est qu'elle ne sait pas quoi faire de ses déchets. Elle les planque un peu partout et on sait qu'en France, le rayonnement ionisant, il s'arrête aux frontières, mais il s'arrête aussi au grillage des stockages des déchets nucléaires. Il est en train de se monter à côté de chez moi la troisième décharge de déchets nucléaires et on est en train de regarder, il est en train de se monter une étude sanitaire pour savoir les conséquences pour la santé des gens autour et pour ça on se sert du lévothyrox qui est le traceur du cancer de la thyroïde. Nos instances essayent que l'enquête soit la plus limitée possible, mais je pense qu'on devrait pouvoir arriver à avoir des résultats intéressants autour de ce sujet-là.
De quelle décharge est-ce que vous parlez là?
Ah oui,
il s'agit de la troisième décharge que l'Andra essaye de monter à l'angle de la Haute-Marne, de l'Aube et de la Meuse, là-bas du côté de Bure, parce que Areva sait franchement pas quoi faire de ces déchets. Ils les ont planqués partout, ils les
Oui,
ont
enfin,
emmenés
c'est
sur...
c'est le Bure. Vous parlez du centre
non,
d'enfouissement
non,
de...
Pas
Ah, c'est à côté de Bure.
Bure.
Ah oui, d'accord.
C'est au croisement des trois départements, c'est exprès d'ailleurs.
Thomas Guéret?
Oui, je voulais juste profiter de cette intervention pour dire qu'en fait, rappeler un adage bien connu, c'est que la seule énergie qui coûte rien, qui ne pollue pas et qui est inépuisable, c'est l'énergie qu'on dépense pas. Hein, donc tous les types d'énergie ont des impacts sur l'environnement, c'est ce qu'on retrouve dans le cahier de Global Chance. Et d'ailleurs, je vais me faire un ambassadeur un peu plus explicite de négawatt en fait. Le concept de négawatt, c'est exactement ça. C'est plutôt que de chercher à tout moment à produire plus et à faire des mégawatts, on va se poser la question à un moment donné en analysant le contenu de cette consommation d'électricité, de comment et à quel coût on peut réduire les consommations d'électricité existantes. Ou par rapport à un tendanciel dans le futur, comment est-ce qu'on fait pour éviter d'augmenter les besoins en permanence. Donc c'est ces mégawatts qu'on recherche qui en fait en général sont beaucoup moins chers et puis non polluants et illimités quoi par rapport à la production.
On a une question de devant.
On avait dit qu'on n'aborderait pas trop la question de production, on est peut-être sur les usages, mais puisqu'on parlait de ce problème de ce stock de logements existants qui représente quand même un gros passif. On voit que malheureusement, là où le lobby et la publicité va dans le porte-à-porte, c'est proposer à tous ces gens propriétaires de maisons individuelles du photovoltaïque. Et puis on a quand même une déferlante là sur laquelle, alors là je sais peut-être pas en termes de coût énergétique, mais en coût d'empreinte écologique, en coût d'empreinte écologique du matériel, de ce que ça représentera comme déchets et comme... moi ça me paraît être une véritable déferlante là, ce qui est en train d'arriver.
Je pense pas que ça soit au niveau pour le chauffage, hein, parce que l'idée de chauffer sa maison avec du photovoltaïque, j'aime mieux vous dire, ça va vous coûter tellement cher que ça risque, on a encore un bon moment avant d'en être au chauffage. Cela dit, c'est vrai que cette politique, à travers les tarifs de rachat, etc., d'implantation systématique de photovoltaïque, et effectivement, on est démarché tous les matins par des gens qui vous disent, je vais vous mettre des photopiles demain, mérite d'être analysé un peu sérieusement. Il y a probablement des cas où c'est pas idiot, mais il faut pas à peu près faire n'importe quoi comme on fait actuellement n'importe quoi. Hein. En tout cas, c'est beaucoup moins intelligent que d'essayer de commencer par faire des économies d'électricité chez soi. Une fois qu'on a fait des économies d'électricité chez soi, on peut se poser la question de savoir comment on change sa source d'électricité. Mais il n'y a pas photo. Pour l'instant, on est dans des rapports 1 à 10 ou 1 à 100 dans les capacités de solution du problème à travers le photovoltaïque ou des éoliennes ou ce genre, et ce qu'on peut faire en termes d'économie d'électricité. Et je voulais d'ailleurs rajouter là-dessus, on n'a pas conclu tout à l'heure en disant, quand on prend la somme des potentiels qu'on a définis, qui sont des potentiels économiquement rentables et techniquement acquis, la capacité qu'on aurait de diminuer notre consommation d'électricité d'ici 2020 est de l'ordre de 20 à 25% sans faire de choses extraordinaires, alors qu'on nous prévoit plutôt plus 10 ou plus 20%. Donc, la capacité qu'on a sur les technologies existantes avec des réglementations, des incitations et un peu de d'effort individuel, à des coûts tels que c'est rentable pour la société et pour les individus, c'est de l'ordre de moins 25% d'ici 2020. C'est quand même dommage de ne pas commencer par là. Alors effectivement, à côté de ça, les 25%, ces 25%-là, quand vous mettez du photovoltaïque à côté, c'est complètement ridicule.
Oui, ça rejoint aussi une question qu'on a abordée tout à l'heure, c'est-à-dire le développement du programme électronucléaire à l'époque. En fait, comme ils voulaient amortir leurs coûts de développement, parce que c'est quand même une industrie très lourde, etc., et les gens qui étaient derrière, EDF, etc., avaient besoin d'un gros carnet de commandes. Et c'est pour ça que ça les arrangeait bien de dire que que l'électricité, ça doublait tous les 10 ans. Aujourd'hui, on a un petit peu le même genre de problématique avec le photovoltaïque ou des techniques émergentes comme ça. Si on veut un jour que ça devienne rentable économiquement et pertinent, il faut commencer par investir à perte. Et c'est ce qu'on fait avec les tarifs de rachat. Et à ce titre, le tarif de rachat, c'est certainement la meilleure méthode pour développer les énergies renouvelables. Donc je crois qu'il faut le faire, c'est bien. Par contre, si dans le même temps, on met pas en œuvre les moyens qui vont nous permettre d'aller puiser dans le gisement d'économie d'électricité, là, on se tire une balle dans le pied, c'est dommage. Et ça me permet de rajouter d'ailleurs que dans l'ordre de priorité, d'après nous, à Négawatt, on a une sorte de triptyque. Il faudrait d'abord se poser la question de la sobriété, c'est-à-dire de quoi est-ce que j'ai besoin. Ensuite, celle de l'efficacité énergétique, c'est-à-dire à partir du besoin réel que j'ai, est-ce que j'ai besoin d'éclairer les bureaux la nuit, par exemple? Ben non. Alors ça, c'est de la sobriété. Ensuite, j'ai un besoin d'éclairage, et ben je vais mettre un appareil de production de l'éclairage qui est très performant. Et ensuite, seulement, on se pose la question des énergies renouvelables, parce que les deux premiers vont déterminer le besoin réel d'énergie. Et donc après, on se pose la question du moyen de production le moins embêtant. Et en combinant ces choses-là, effectivement, en quelques décennies, on peut arriver à quasiment tout faire avec des énergies renouvelables. En tout cas, c'est ce qu'on a démontré avec le scénario Négawatt à l'horizon de 2050.
On a une question au fond.
Il y a un système simple qui incite aux économies d'énergie et qui existe dans beaucoup de pays pauvres et qui a existé en Italie jusqu'en 2002-2003, il me semble. C'est la tarification progressive. Alors évidemment, ça a posé problème d'éthique ou d'équilibre ou d'éthique pour les familles nombreuses, évidemment, des cas particuliers comme ça. Mais est-ce qu'il y a une réflexion là-dessus? Est-ce que ça pourrait être mis en place un jour?
En tout cas, il y a un chiffre que vous donnez sur l'Italie qui est spectaculaire.
Ça existe encore en Italie. Hein.
Ouais.
Le principe, c'est qu'en fait, quand on consomme peu, on paye moins en kilowattheure. Alors qu'en France, c'est le contraire. Plus on consomme, et plus le kilowattheure est bon marché.
Il y a un tarif bas qui correspond aux ménages à bas revenus. Et puis à partir de là, donc ça répond un peu à la question, si tu veux, d'une certaine catégorie. Mais à partir de là, ça monte. Moi, je voudrais revenir sur cette question des usages et des économies. C'est que il y a un certain nombre de problèmes énergétiques sur lesquels l'action, soit individuelle et même du citoyen, est faible. Par exemple, le prix du pétrole, le prix international du pétrole. Aucun d'entre vous, ni même le président de la République, n'y peut quoi que ce soit. Par contre, sur la question des économies d'électricité, absolument tout le monde peut faire quelque chose. Soit chez soi, déjà, on a vu des tas d'exemples, au niveau de sa ville, au niveau de son département, de sa région, etc. Et donc, l'idée derrière ce numéro, c'était aussi d'inciter à ça. C'était pas seulement une information de caractère technique, économique, etc. Mais de montrer, un, que les potentiels sont considérables, et qu'un gain de 20 à 25% sur 10 à 12 ans, c'est quand même pas mal, qu'il faut arriver à baisser les consommations, et que sur la question de l'électricité, des actions sont possibles à chaque niveau. Et dans le document, il y a un peu une explicitation de ces niveaux. Et vous voyez des exemples de petites villes qui font des choses, et des petites villes, il y en a beaucoup. Et on ne voit pas pourquoi il y en a deux ou trois qui font plein de trucs, et puis que les autres attendent que la neige tombe, quoi.
Question suivante, je ne vois pas quel micro là. Ah oui, allez.
Alors, une question simple. Est-ce qu'il est facile de se procurer un wattmètre?
Oui, 20 euros au BHV.
Au BHV.
Non, c'est pas bon. Non.
Faut mettre
30 euros, 20 euros, il est nul.
Ah bon?
On nous conseille le modèle à 30 euros.
Moi, j'ai réussi à refaire ma facture quand même assez convenablement avec celui à 20 euros. Enfin, s'il faut prendre celui à 30.
Avec le micro, s'il vous plaît.
Celui de le modèle IDK 50, je crois, au BHV à 19,99 €, je crois, il a des pas de mesure de 6 watts. Donc, en fait, si vous mesurez une lampe, mettons, de 10 watts, il va vous indiquer 12. Et si vous mesurez une lampe de 13 watts ou 14 watts, il va rester à 12 jusqu'à ce que vous passiez jusqu'à 18 watts. Quoi, là.
Ah, alors.
Donc, pour les grosses puissances, c'est pas gênant, mais pour les petites consommations, c'est vraiment pour les
petites. Ah, oui.
tu vois.
Donc il faut prendre, qu'est-ce qu'il faut prendre du coup?
Bah, des modèles à 30 euros en général.
Oui, mais attention, et il y en a des mauvais aussi.
Oui, enfin bon, ils sont quand même nettement meilleurs que ça en général, c'est vrai qu'il y a un peu de tout, mais bon, je peux vous donner une adresse.
Et à 40,
vous
voyez, c'est encore mieux.
Électronique diffuseur Malakoff, si vous voulez, ou trouver quelque chose de bien, mais bon, c'est... ça fait de la pub, donc je suis désolé.
Bon, donc ça se trouve à différents prix.
Question suivante. Pardon, il y a quelqu'un qui a le micro.
Oui, en fait, je voulais quand même revenir sur l'association Négawatt, du moins ce qu'elle essaye de faire passer comme message, parce que c'est le seul endroit où j'entends de manière claire et peut-être précise toute la possibilité, justement, le gisement d'économie d'énergie que ça peut représenter sur nos consommations. Et donc, pourquoi on n'entend pas ce discours de manière un petit peu plus fort et aussi de manière un petit peu plus officielle? Parce que c'est pas le travail de l'ADEME de faire ça. Même s'il y a une campagne qui existe en ce moment, on la trouve personnellement, je la trouve un petit peu timorée.
Oui. Très timorée.
C'est le travail de l'ADEME. Elle le fait pas, mais c'est son travail. Elle est payée pour ça, a priori.
Où est-ce qu'on peut avoir des informations, justement, en dehors, le site de Négawatt existe, mais est-ce que vous avez des campagnes, est-ce que vous avez des...
Il y a un certain nombre de sites qui sont listés, dans le cahier de Global Change.
Allez sur le site.
Parce que moi, du coup, en tant que consommateur, je voudrais savoir qu'est-ce que je peux faire exactement.
Top 10. Non, mais il y a beaucoup de choses là-dedans qui sont indiquées.
Il y a Top 10, il y a le site d'Olivier Sidler et d'Airtech, sur lequel il y a des, qui sont résumés dans le cahier, de toute façon. Non, le cahier est très bien pour ça.
Oui, franchement.
On vous écoute.
Monsieur Négawatt, où se trouve sur les compteurs électroniques la sortie qui permet d'avoir un ampèremètre sur le lieu de vie? Sur nos compteurs aujourd'hui, on est capable d'avoir en permanent, à l'endroit où on le voit, ce qu'on est en train de consommer. C'est-à-dire savoir si le gamin qui est parti à l'école depuis 4 jours, il n'a pas foutu le radiateur à fond, laissé les fenêtres ouvertes.
C'est vrai que les compteurs électroniques, on peut faire défiler l'affichage pour arriver sur la consommation instantanée.
Alors,
mais ça dépend des modèles.
Parce que là, vous avez en temps T, comme les indicateurs de consommation qu'on avait sur les voitures, ce que vous êtes en train de consommer.
Oui.
C'est-à-dire que vous regardez, si c'est tout rouge, vous savez que vous êtes en train de vous servir du four et que le poulet est pas encore cuit.
Oui, c'est ça, il y a des éléments. Alors justement, il y a eu un appel d'offres récemment pour des nouveaux compteurs électroniques, et on a on a à chaque fois tout le mal du monde à essayer de faire passer des idées simples pour préconiser pour soutenir les économies d'énergie. Parce que ça va être compliqué d'accéder à l'information, l'exportation des données pour reconstituer sa courbe de consommation, etc., n'est pas facile, alors qu'on pourrait facilement faire des... Enfin, quand on en est à la rédaction du cahier des charges d'un nouveau compteur, on pourrait faire des choses faciles à utiliser pour les gens. Et c'est pas toujours le cas.
Est-ce qu'il y a une autre question? Vous n'avez pas déjà posé des questions, vous?
Alors, ce ne sera pas une question, ce sera une sorte d'avertissement. Plus on consomme d'électricité, plus il y a les champs électromagnétiques autour des lignes électriques. Et il y a des cas, par exemple à Paris, où on se retrouve en hiver avec des pollutions électromagnétiques qui montent jusqu'au 6e étage de l'immeuble à cause des lignes électriques qui passent dans le trottoir. Et plus on fera d'économie d'énergie, moins il y aura cette pollution-là aussi.
Précision intéressante.
Oui, je voulais dire à propos de cette dernière information que le docteur Albaret a fait un livre spécial sur ce sujet concernant les pollutions électromagnétiques et les conséquences sur la santé. Et quand il détecte, quand on appelle pour un examen à domicile, il détecte tout ce qui se passe dans le quartier et il explique tout ça dans son livre. Voilà. Le docteur Albaret, et il a fait ce livre avec une physicienne dont je n'ai pas le nom en tête, mais vous allez le trouver sur Internet certainement.
Merci, bonsoir. Juste une petite question concernant ces différents compteurs électriques. Est-ce que l'on peut avoir un affichage dans sa cuisine, dans son couloir? Vous avez peut-être déjà posé la question avant que je n'arrive, mais il y a souvent le compteur électrique est dans la cave ou à l'extérieur de chez soi. Non, mais d'avoir la consommation immédiate, un peu comme un compteur de voiture. Non, un wattmètre.
Non, ce serait un report de l'affichage des consommations. Oui, alors ça, ça se fait dans les grands immeubles avec les gestions techniques centralisées, ça s'appelle comme ça. Vous avez des reports pour que, par exemple, la personne qui s'occupe de la maintenance de l'immeuble ou qui est là pour pendant la nuit, ou etc., puisse contrôler que ça sort pas des clous, que les lumières ont bien été éteintes, etc.
Mais
à titre individuel, alors dans les offres de domotique, il doit y avoir des choses, mais j'avoue que je connais pas le détail.